et bonsoir.
Salut à tous, c'est les Joyeux Lurons.
Comment ça va?
Ouais, quoi?
La tête de Manuel.
Non, c'est pas ça l'intro du podcast?
Les Joyeux Lurons. Ça va, Manuel?
Ça va, et vous?
Vous voulez pas qu'on renomme le podcast Les Joyeux Lurons?
Les Joyeux Lurons, quel enfer.
Non, pas vraiment.
Vous voulez pas faire du clic, c'est ça votre problème? Ça, vous êtes pas attiré par l'argent?
Mais c'est peut-être une bonne idée, hein. Après, reste à savoir s'il faut la faire ou pas, quoi.
Ah, comment on sait quand on a une bonne idée?
Et comment on transforme une idée en projet?
C'est une bonne question, ça. On devrait en faire un podcast.
Bah voilà, bienvenue
aux Joyeux Lurons.
Quel enfer.
Moi, je vais officialiser ça. Je veux que les gens nous appellent les Joyeux Lurons. Non, personnellement.
Si, ça sera le nom de ton bar quand tu seras riche?
Non. Le nom de mon bar, c'est Léo Teuf.
Ah oui.
Je peux pas. Il peut pas avoir plusieurs.
Pas tout
noms.
Faire quoi. Tu t'as gagné avoir... depuis ou pas depuis
tu
le dernier épisode?
Plusieurs bars.
Attendez, parce que l'Euro Million, c'est ce soir. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, enfin si vous savez ce que c'est, mais pour la référence, écoutez le précédent podcast dans lequel j'annonçais que j'allais gagner à l'Euro Million. Ce soir, il y a 143 millions.
Ah.
Donc je peux vous dire que je peux racheter le podcast sans problème.
T'as prévu de nous enfiler combien?
Les Joyeux Lurons. De quoi?
De combien tu penses nous reverser?
Ça fait trop chier parce que je crois que tu peux envoyer max 100 000 $ par 100 000 euros par an.
Ah.
Au-delà, t'es trop taxé, c'est con.
C'est vrai.
Ah oui.
Du coup, pour avoir de la marge, je vais vous envoyer 10 balles, je pense. Comme ça, au cas où, si un jour je dois vous envoyer plus, je pourrais, tu vois.
Bon, pour débuter ce sujet, est-ce qu'on se pose déjà vraiment la question? C'est-à-dire que, enfin, perso, quand j'ai une idée, c'est peut-être d'ailleurs un vrai point négatif. Hein.
En général, tu l'as fait. Hein.
Voilà.
Tu
je me pose pas forcément la question. Il faut se poser la question.
Moi, je trouve que c'est mieux, mais après, ça dépend des personnalités.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay. Manuel, comment tu sais, toi, quand t'as une idée où tu te dis « là, ok, on y va ». Parce que tu dois en avoir plusieurs, quand même, par jour, par heure, par minute.
J'ai plusieurs idées, oui, bien sûr, mais...
Non, mais sérieusement, à quel moment tu te dis « bon, tiens, vas-y, celle-ci, il faut vraiment qu'on y aille ».
Bah, quand je vois que... ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'idée business, c'est quand je vois que ça résout un problème, déjà.
Okay.
C'est un bon premier critère pour trier dans tes idées.
Okay.
Parce qu'il y a des idées qui sont cool, hein, qui te font plaisir à toi, mais ça résout aucun problème. Donc, si tu essayes de résoudre des problèmes qui n'existent pas, c'est moyen. Quand tu te dis que tu peux exécuter mieux que ce qui existe déjà, parce qu'il y a quand même assez rare d'avoir des idées sur des sujets complètement vierges. Donc ça, c'est un deuxième bon critère. Et puis après, ça dépend. Enfin, le sujet est vaste, tu vois. Ça dépend de combien coûte la mise en exécution. Est-ce que c'est une idée qui coûte cher, qui ne rapporte de l'argent que si elle est à grande échelle, ou même si à petite échelle, elle peut commencer à rapporter déjà un peu de,
bien sûr,
de revenus. Tu vois, il y a quand même beaucoup de questions à se poser.
J'ai pris pas mal de notes. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, le but à la fin, c'est qu'on puisse correctement savoir identifier une bonne idée.
Okay.
Pour pouvoir la transformer en projet.
Voilà. Okay.
Toi, Léo, comment est-ce que tu... Pareil, ton boulot, c'est de partager un contenu final sur une idée que tu as eue à un moment, mais comment tu sais que c'est la bonne vidéo ou la bonne idée à traiter en vidéo?
Mais j'étais en train de me poser la question, et en fait, je crois que toutes les idées sont bonnes à partir du moment où tu les négocies bien, en fait. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas tellement l'idée que tu as à la base, c'est la façon dont tu la négocies par la suite. Et je sais que moi, il y a plein de moments où je me disais, ça, je sens qu'il y a un potentiel, mais pour l'instant, c'est une idée de merde. Et en fait, en général, quand j'ai une idée, je la fais, je la développe, et je finis par en faire un truc cool. Donc j'ai un peu la sensation que j'ai que des bonnes idées, parce que d'expérience, je sais les transformer.
En toute modestie.
Oui.
Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un processus itératif, et que une idée, ça s'use, en fait, tu vois, il faut la challenger, il faut raffiner le truc petit à petit. À force de tamiser, tu vas finir par trouver une pépite. Par contre, quand tu dis « je pense que toutes les idées sont bonnes », tu vas venir passer quelques heures dans certains calls que je fais, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, ils n'ont pas que des bonnes idées.
Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que l'idée, ce soit le plus important. C'est l'exécution. Derrière une idée, tu peux la remodeler, tu peux la retourner dans tous les sens. Et en fait, la première idée que tu as eue était essentielle au résultat final. Peut-être que tu l'as détournée, mais je pense qu'elle était quand même essentielle.
Je pense aussi que... on va dire que la qualité de ton idée est directement liée au niveau de culture générale que tu as sur ton secteur.
Bien sûr.
Il y a des tonnes de gens qui trouvent qu'ils ont des idées extraordinaires. Et parfois, c'est aussi lié au fait qu'ils connaissent pas très bien leur secteur. Et c'est un peu dur de leur dire « ton idée est bonne, mais elle a déjà été faite 26 fois. Et il y a 13 boîtes qui sont mortes, il y en a 13 autres qui se partagent le reste du marché. » Et visiblement, tu n'en connais aucune.
Et à l'inverse, si personne n'a jamais fait ton idée, il y a peut-être une raison.
Tout à fait.
C'est de là où on peut démarrer. Tu en as parlé tout à l'heure, Manuel, c'est identifier le problème. Je pense que c'est compliqué d'avoir la bonne stratégie dès le départ, de se dire, OK, comment est-ce que j'ai une vision claire du problème que je veux régler ? Donc ça, déjà, ça s'apprend. Comment est-ce qu'on... Enfin, moi, je pars d'un principe simple. Déjà, tu vas sur Google, tu regardes le marché dans lequel tu veux opérer. Tu essaies de le comprendre, de voir ce qui se fait. J'ai lu aussi que c'était intéressant de pouvoir interviewer des personnes, faire des sondages, avoir des discussions ouvertes. C'est pour ça que je dis souvent, moi, enfin, je dis dans mes lives, même si tu as une idée mais que tu n'as pas encore les moyens de la réaliser, parce que c'est une idée avec un produit physique, par exemple, à développer et autres, rien ne t'empêche d'ouvrir un compte TikTok, d'ouvrir ta gueule en disant... Et on va faire ça, machin, etc. Et de voir juste les retours dans les commentaires. Déjà, tu vas pouvoir avoir beaucoup de feedback.
Alors, si tu fais partie des gens qui ont beaucoup d'idées, tu vas vite passer pour un con quand même.
Alors, aujourd'hui, c'est...
Moi, ma première étape, je crois que ce serait de demander à ChatGPT. Hein, en lui disant, réunis un conseil d'experts pour investir dans ma boîte. Je te pitch le projet et tu me dis ce que t'en penses.
Mais ça, c'est...
Je pense que de manière brute... Tu peux avoir des résultats intéressants.
C'est tellement vrai. C'est-à-dire que maintenant, avec l'IA, sincèrement, tu peux convoquer une espèce de puissance de catalogue, pas forcément de raisonnement subtil, mais de data disponible sur un secteur, un problème, une idée. Tu peux demander à ChatGPT... l'avis des experts sur ce secteur ou ce problème. Tu peux lui demander comment d'habitude ce problème est résolu, etc. etc. Et tu gagnes un temps de fou.
Ouais.
Et il y a des générations qui vont être élevées en faisant leur business plan comme ça.
Ah bah bien sûr. Et c'est pas tellement l'idée, c'est pas tellement d'écouter tout ce que l'IA te dit. L'idée, c'est juste de te confronter à un avis différent. Quand bien même il est pas humain, on s'en fout. Peut-être que l'IA va utiliser des arguments auxquels tu n'avais pas pensé et que ça va résonner en toi et tu vas te dire « bah oui, c'est vrai, en fait, mon idée, c'est de la merde parce que ça existe, parce que tel argument est valable. »
C'est fou parce que depuis la nuit des temps, les êtres humains, en général, préfèrent être confrontés à des gens sincères et qu'ils leur disent, même si ça fait mal, ce qui ne va pas. Et là, on le retrouve vachement plus facilement.
Enfin, pas tous. Hein.
Bah, le problème, c'est de les trouver, les gens sincères.
Ouais, ouais, c'est clair.
C'est parce que tu ne demandes pas à tes proches, tu ne demandes pas à ta famille, tu ne demandes pas à tes potes. Parce que dans ta famille, il y aura peut-être des gens qui ne veulent pas te voir réussir plus qu'eux, donc ils ne vont pas être de très bons conseils. Et dans tes potes, il y a plein de gens qui ne voudront pas te faire du mal et qui se disent « bon, il a une idée, je vais pas oser lui dire la vérité ». Donc c'est simplement plus froid de demander à une IA.
Et après, dans le fait d'identifier le problème, je pense qu'au-delà d'avoir ces témoignages et de savoir si on répond à un vrai problème, c'est de simplifier à mort le problème à résoudre. Parce que souvent, quand on a une idée, on se dit dès le début… Ah non, puis en plus, on pourra faire ça, et puis on va vendre ça, et puis ça, finalement, tu pourras l'acheter aussi comme ça. Et c'est souvent de cette façon-là qu'on peut se planter vite, parce que tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie et d'argent dans plusieurs petits problèmes à résoudre et plusieurs funnels, plutôt que d'en résoudre un seul au début. Mmh. Et je crois qu'il y a beaucoup de boîtes, Manuel, même en tech, qui ont démarré par résoudre... Enfin, je pense naturellement à Uber. Au départ, ils ne se sont pas dit « Ah ben, on va aussi permettre aux gens de faire les courses. » Et puis aux US, ils vont aussi pouvoir acheter des médicaments. Et puis au fur et à mesure, quand tu fais grossir ta boîte, ça, je pense que c'est important. Et parfois, ça peut vraiment en faire échouer beaucoup. Le fait de ne pas simplifier sa vision.
Ouais.
Bah déjà, une des premières choses que tu toi aussi ne pas oublier de te poser comme question, quand tu as une bonne idée, imaginons qu'elle passe même au prisme de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, est-ce qu'elle résout un problème? Est-ce qu'elle est facilement exécutable? Est-ce qu'elle génère du revenu assez vite ou dans longtemps? Enfin, les 6-7 questions qu'il faut se poser. Il y en a une huitième que tout le monde oublie, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour l'exécuter? Parce que, je veux dire, personne n'a le monopole des bonnes idées, mais c'est pas parce que tu as eu l'idée que tu es la bonne personne pour l'exécuter.
Ouais.
Assez dur, ça. Parce que tu es souvent animé par ce sujet, puisque c'est toi qui as trouvé l'idée, donc tu as forcément envie de le réaliser au départ.
Bah ouais, mais ça veut pas forcément dire que c'est toi qui vas le mieux le faire.
Et comment tu fais dans ce cas-là, alors? Si tu te dis, bon, moi j'ai pas les compétences pour, j'ai pas la patience, l'abnégation. Ouais, mais comment tu... Enfin,
si t'y tiens vraiment, tu en parles à quelqu'un qui te semble un bon candidat, tu vois si ça le chauffe, et si c'est le cas, tu te fous minoritaire dans la boîte.
Incroyable. D'avoir, ouais, mais je pense que pour faire ça...
C'est beaucoup de lucidité.
Ah ouais, c'est faut vraiment en être à un stade avancé, quoi.
Et tu lui dis, bah voilà, t'as 80% de la boîte, de toute façon, c'est toi qui vas faire la valeur. Et puis moi, j'aurais peut-être 20% de quelque chose si t'y arrives, mais ça sera toujours plus que rien du tout si j'exécute pas ou mal.
Ouais, bien sûr, ouais.
Incroyable.
20%, c'est pas beaucoup, quand même.
Bah, est-ce que c'est pas mal quand même pour avoir eu l'idée au début, etc. Puis sachant qu'en plus, si la boîte lève, etc., tout le monde va être dilué. Donc,
Oui, mais tu peux quand même occuper une responsabilité dans la boîte.
Oui, pas plus. Forcément, mais là, j'étais vraiment dans le schéma extrême où tu te dis, mais okay, franchement, je sers à rien. Quoi.
Tu la donnes à quelqu'un, quoi.
Ouais.
Ok.
Et dans le fait, dans cette première étape d'identifier le problème, est-ce qu'on. Et comment on s'y prend pour identifier la cible? Parce qu'au départ, parfois, vu que l'idée nous touche, on se dit qu'elle touche tout le monde. C'est souvent...
Bah ça, c'est la taille du marché. Tu dois évaluer la taille de ton marché. Il y a des gens qui pensent que ce problème va toucher tout le monde, alors que pas du tout.
Et sincèrement, toutes les boîtes aujourd'hui qui fonctionnent ont fait ça au début, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on raconte ça pour avoir un process, etc. Mais à la fin, Léo et moi, quand on a démarré YouTube, on s'est pas dit c'est quoi la taille du marché, c'est quoi le business. On a fait parce qu'on trouvait ça cool. Et puis il se trouve qu'après, ça a évolué. Mais tu vois, c'est là où j'ai toujours du mal à dire aux gens, soyez organisés, faites ça, première étape et tout. Alors que bah, perso, nous, c'est pas ce qu'on a fait, quoi.
Le fait que tu puisses réussir par hasard ne veut pas dire qu'il faut pas se poser les bonnes questions au départ. À partir du moment où tu connais ce conseil-là, tu sais comment le faire, autant le faire dès le début. T'es pas obligé de laisser le hasard dans ton succès ou ta défaite.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que tu l'as pas fait parce que tu savais même pas que ça existait, ou est-ce que tu l'as pas fait parce que t'avais pas envie de le faire?
Ah non, je savais même pas que ça existait.
J'ai une bonne idée de la réponse quand même.
Je savais même pas ce que c'était qu'un business plan, ça c'est sûr.
Donc voilà, le problème est réglé. Et ensuite, okay. Deuxième élément, c'est l'époque. C'est-à-dire les gens qui aujourd'hui arrivent sur le marché, ils sont 1000 fois plus renseignés sur l'entrepreneuriat qu'il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, être entrepreneur, c'était pas aussi cool qu'aujourd'hui. Donc t'étais vachement moins préparé, il y avait moins de lieux pour se former. Aujourd'hui, il est pas déshonorant pour une école de commerce de former des entrepreneurs. Avant, les écoles de commerce, elles formaient des cadres supérieurs.
Ok.
Donc t'es beaucoup plus préparé de par l'époque. Donc, il y a beaucoup plus de gens sur le marché qui raisonnent comme ça. Donc, ils font ce travail et qui le pilotent sérieusement. Donc, il faut que tu te mettes au niveau. Donc, avant, tu pouvais lancer une idée sur une intuition et pas vraiment faire ton homework totalement. Comme le nombre de prétendants était plus faible, tu avais plus de chances de t'en sortir malgré ses défauts. Ça aurait été mieux de le faire avec cet avantage concurrentiel. Mais bon, ça passait quand même. Aujourd'hui, la compétition a relevé le niveau général.
Ok. Ensuite, on a la deuxième étape, c'est, je pense, l'étape spéciale Léo. Travailler sur de potentielles solutions idées avec des mind maps, brainstorming. C'est tu fous tout ce à quoi tu penses qui pourrait être lié au fait de résoudre ce problème-là. Pour l'instant, on en est vraiment là. On n'en est même pas encore à faire le tri, etc.
Ouais, ça, pour moi, ça doit être le plus gros du travail parce que c'est ce qui va définir... si ton idée est bonne ou non.
Ah ouais? C'est-à-dire, est-ce que tu remplis assez? Est-ce que non? Est-ce que... Bah, comment tu juges?
En fait, c'est pour ça que je dis que l'idée n'est pas un concept si intéressant à la base, parce que c'est juste une pensée que tu as eue à un moment de ta vie. derrière, quand tu la couches sur papier, quand tu la mets sur une mind map, quand tu commences à te poser les questions, en général, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est l'étape qui te confronte à la réalité. C'est là que tu vas voir si le marché est assez grand, c'est là que tu vas voir si effectivement tu es la bonne personne pour l'exécuter parce que tu as les bonnes idées pour la transformer, etc. C'est là que tu vas découvrir énormément de choses. Moi, en général, c'est là que je me dis, putain, le projet sur lequel je me suis mis, en fait, il est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Ça va juste me prendre plus de temps que prévu.
Ah, ok. Parce que tu vois que tu atterris à trop d'endroits différents.
Je vois que ce que j'imaginais comme étant un truc hyper simple, en fait, ça m'emmène beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est ce qui se passe sur quasiment toutes mes vidéos. Donc c'est le moment qui est crucial parce que c'est le plus difficile mentalement, créativement, mais c'est aussi le plus important parce que c'est vraiment là que tu vas masteriser ton idée et que tu vas en faire un projet.
Toi, Manuel, dans ce moment bac à sable, comment est-ce que tu gères le nombre d'idées et de solutions que tu peux avoir ? Tu utilises une mind map pour le coup, est-ce que déjà tu en as plusieurs ou en général quand tu repères un problème, t'as déjà très très rapidement au même moment, enfin aujourd'hui peut-être qu'avec l'expérience, t'as même la solution avant d'avoir le problème. Mais...
Non, c'est arrogant. Moi, je pense que je raisonne comme une mind map. D'ailleurs, mes proches me disent, c'est devenu une expression, même à la maison d'ailleurs, en disant, ils me regardent quand je suis en train de réfléchir, ils me disent, Manuel, t'es en train d'ouvrir une branche de mind map. et en fait, je raisonne beaucoup comme ça par imbrication. Alors si je fais ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je vais au bout de la branche, puis ensuite je prends une autre hypothèse, et si je fais ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et donc du coup, je me délise un peu le truc. Mmh. Mais je pense que je le fais déjà mentalement, naturellement, après je mets à le faire sur une mind map, parce que ça me permet d'avoir l'overview global. Mais dans cette phase, ce que je trouve le plus important pour quelqu'un qui porte une idée, c'est d'évaluer ce que j'appellerais la profondeur de cette idée. C'est-à-dire que tu démarres en règle générale par un truc, un corner, et ensuite tu te dis mais elle peut m'amener jusqu'où cette idée.
Ouais.
Pour prendre un exemple que t'aimes bien, le bingolo de Romain habituel, Jeff Bezos, c'est pas comme d'habitude, c'est Jeff Bezos cette fois-ci.
C'est bien aussi.
Bon, au début il dit je vais livrer des livres.
Ouais.
Mais tu peux être sûr que quand il a évalué la profondeur de cette idée, il a été beaucoup plus loin et très tôt il s'est dit en fait, il y a des tonnes de produits qui sont indexables et livrables. Et ce travail-là, il est extrêmement important parce qu'il te permet de designer les étapes de ta boîte. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire d'un coup. Et c'est même terrible parce que dans cette phase-là, il faut se prêter à rêver à ta boîte dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en mêlant à ta réflexion les indicateurs de ce marché, vers où va ce marché. Oui, les gens sont de plus en plus prêts à ne plus aller au restaurant et à se faire livrer chez eux. Ça a été une tendance à un moment. Aujourd'hui, on considère que le food delivery est un truc basique. Mais si tu reprends à l'époque, même Deliveroo s'est battu avec ses actionnaires pour dire « si, il va y avoir une vraie trend et vous allez voir que les gens ils préfèrent rester sur leur canapé que d'aller au resto ». Il a fallu se battre pour défendre cette trend. Et c'était pas forcément évident. Donc, il faut que tu lises ton époque et que tu pousses la profondeur de ton idée loin, et dès que tu as fini ça, tu fermes toutes les branches, et t'en gardes une, et tu exécutes excessivement celle-ci et pas une autre. Tu choisis une branche à exécuter de ton mind map.
Ok.
Pour démontrer que ça va le faire. Mais en même temps, si tu cherches assez vite à développer ta boîte et à lever des fonds, etc., et que tu n'as pas réfléchi aux autres branches, et que tu rencontres des actionnaires.
Ouais, c'est pas sexy, et on se dit, il va où quoi.
Ils évaluent le potentiel, ils se disent, putain, il a même pas vu ça, il a pas vu ça, il a pas vu ça. C'est pas terrible.
Ok. Et pourquoi la mind map, c'est selon vous l'outil parfait pour travailler sur ses idées et solutionner un problème ? Déjà, si on peut. Il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est qu'une mind map, si tu peux expliquer rapidement.
Ils vont dans Google et ils nous font pas chier.
C'est en fait, il faut le principe de la mind map, c'est qu'il faut la visualiser. Donc, aller chercher sur Google, c'est simplement.
C'est un arbre généalogique pour
c'est
moi.
C'est une app, c'est un logiciel où vous voyez, vous créez une idée, vous écrivez du texte. Ensuite, il y a une sous-idée, puis une sous-idée, puis une sous-idée. Et au bout d'un moment, ça fait effectivement comme un arbre généalogique. Pourquoi ça marche ? Parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Nos neurones, ils fonctionnent visuellement de la même manière. C'est une idée qui emmène à 2 idées, qui emmène à 3 idées, etc.
C'est du
donc,
design.
En une fait. Mind map, ça permet de quasiment visualiser ton cerveau, en fait.
C'est un processus de design. Donc, c'est un processus qui t'aide à jeter des trucs sans que ça soit difficile. et à les organiser naturellement en créant des liens logiques entre eux. Et c'est la définition même du design, en fait.
On a commencé à en parler, faire le tri, une fois qu'on a toutes ces idées-là, qu'on a notre mind map bien complète. Manuel, tu préconises le fait de se concentrer sur une seule branche. Comment est-ce qu'on juge quelle branche on doit exécuter en premier? Bah, tu parlais de la rentabilité, de l'efficacité, comment est-ce que...
Celle qui ressemble le plus à un tronc.
Ok, génial. Merci. Des pommes au bout, des cerises...
Bah non, mais c'est ça, en fait. Tu vois bien à un moment que t'as des branches qui ressemblent à de la diversification.
Ok.
Et t'as des branches qui ressemblent au flux mainstream de ton business.
Ouais.
Et après, si t'arrives pas à départager, bah, tu regardes le coût d'exécution de ces idées. Si je continue mon analogie sur Amazon... Un livre, c'est pas gros, c'est pas lourd, c'est facile à livrer. T'as pas de problème de logistique.
C'est pas cher en SAV, c'est pas...
Il y a pas de SAV, c'est pas technique.
Ouais.
Il y a très peu de probabilité de retour. Bon, bref, ça présente tous les bons critères. Quand tu vas faire cette branche-là, tu construis toute la chaîne logistique. Une fois que t'as cette chaîne logistique, ça ressemble quand même à un tronc. Tu vas pouvoir... faire des produits plus complexes sur lesquels il y a plus de risques de retour, des produits plus variables, changement de taille, les fringues, etc., etc. Mais tu seras prêt, parce que ta chaîne logistique sera prête.
Je crois qu'il faut... C'est difficile, mais je crois qu'il faut se fier à son feeling, en fait.
Toi, tu fais comment? Enfin, j'avais déjà vu des mind maps...
Feeling.
Ah ouais?
Bah oui. Bah, en même temps, ça ne repose que sur moi, c'est ma création.
Ouais.
Donc je ne peux me reposer que sur mon feeling. C'est juste que pour y arriver, ça demande beaucoup beaucoup de réflexion, ça demande de torturer le truc dans tous les sens. J'ai des mind maps qui font 10 fois la taille de ma vidéo initiale, mais parce que je veux visualiser tout ce que j'ai en tête pour ensuite supprimer 80%.
Ok.
Et 20% ce sera ma vidéo, et ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Là aujourd'hui par exemple, j'ai passé la journée sur l'intro de ma vidéo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais parce que c'est ce qui va définir tout le reste, l'intro de ma vidéo. Donc j'y passe énormément de temps. Et je pense que c'est à la fois difficile de se fier à son feeling et en même temps c'est plutôt rassurant. Parce que c'est la chose que tu connais le mieux. Donc quand tu regardes ta mind map et que tu te dis ce truc là c'est ce que je sens le mieux, peut-être que ce sera un échec, peut-être que c'était pas le bon choix, mais au moins c'était le tien.
J'ai du mal à visualiser la façon dont je travaille, moi.
Mais c'est bien ça le problème.
Non, mais je sais, il y a des choses sur lesquelles je passe du temps, il y a des choses sur lesquelles j'exécute très vite et très mal, et ensuite j'ajuste, mais je sais pas là quand je vous écoute je me dis putain, mais et moi alors, genre comment je bosse vraiment et à quel moment je sais que c'est... Moi, il y a souvent ce truc de c'est une idée qui me touche, c'est un truc où je me dis ça me tient à cœur. Je me projette souvent dans la personne qui va regarder ce qu'on voit et je me dis est-ce que j'aurais aimé voir ça ou y avoir accès plus tôt, etc. Donc j'ai pas mal ce truc-là. Mais dans les questions, par exemple, tu vois, qu'on pose aux dirigeants et tout, je sais pas comment on choisit vraiment. Pour le coup, c'est juste un boulot artistique, tu penses ?
Déjà c'est marrant parce que moi je me projette très rarement dans un second temps, je me projette à la place de la personne qui va regarder.
Ah ouais ?
Je me pose beaucoup plus la question de ce que j'ai envie de raconter, comment j'ai envie de le raconter, ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de le transmettre, et dans un second temps, c'est juste pour simplifier mon propos, je me demande ce qu'elle va comprendre, est-ce qu'elle est susceptible de ne pas comprendre, à quel moment l'audience va baisser en intensité, va moins s'intéresser parce que là je sens que la vidéo commence à battre un petit peu de l'aile, etc. C'est purement pour des questions de rythme et de compréhension. Mais avant ça, je me pose jamais la question de ce que
je fais tout l'inverse.
De ce que l'audience se demande.
C'est ouf. Ok. Ah non, moi je pars d'abord d'un point de vue utilisateur avant de penser au produit. Je comprends. Ok. Comment on la prototype, cette idée ? On l'a, on a fait notre mind map, on sait sur quel tronc travailler. ok, on passe au prototype. Il se passe quoi à partir de là? Jusqu'où on risque le truc? Combien on investit? Quel temps on y met? Est-ce qu'il faut... Ou alors, est-ce qu'on prototype rien et on va vendre cette idée? Est-ce qu'on va s'associer avec une personne qui va le faire? Mais vous prototypez comment? Est-ce que déjà vous prototypez? Ou vous vous dites non?
Tu fais un MVP, quoi.
C'est?
Tu fais un MVP, c'est-à-dire c'est ton idée en petit. Ça veut dire minimum valuable product. Et c'est ton idée en tout petit. Donc si tu as une idée de site marchand, bah, le fais pas en 12 langues pour adresser le marché européen. Commence en une langue, voir si ça prend. Fais pas de campagne advertising, va en parler toi-même.
Ça coûte cher.
Des forums, sur Quora, sur je sais pas quoi, etc. Et vois comment les gens réagissent. Voilà, fais tout en petit.
Ok.
Et vois ce qui se passe. S'il y a des signaux d'intérêt, si tu te rends compte qu'il y a des trucs qui commencent à frémir, bah là, c'est intéressant.
C'est
intensifie
là où...
l'effort sur ces sujets-là et vois si, ça, si la courbe de croissance est linéaire, un effort, deux résultats, ou si elle est exponentielle, deux efforts, huit résultats.
Et ne pas avoir du coup la maladie de vouloir tout faire parfait, quoi. C'est souvent là où ça peut... En fait, peut-être que l'idée est bonne, sauf que l'exécution est tellement mauvaise parce que tu passes beaucoup trop de temps sur des détails, etc., qu'à la fin, ça pourrit et ça naîtra jamais.
Je crois qu'il faut absolument garder la volonté de le faire parfaitement. Simplement, il faut fixer une date de fin.
Ah, je suis content de l'entendre.
il faut surtout garder cette volonté que ce soit ah, parfait. Il faut donner le meilleur de toi-même.
Deadline.
Maintenant, tu fixes une deadline parce que, par définition, ce sera jamais parfait. Ça n'existe pas. Donc, fixe une date de fin et jusqu'à cette date, tu donnes tout ce que tu as pour que ce soit le plus proche du parfait.
Ok. Est-ce que vous mettrez en place des mécaniques ou un suivi pour recueillir justement les informations des premiers tests, des premiers clients? Est-ce que vous vous nourrissez et si oui, comment? Toi, Léo, peut-être des premiers commentaires pour la prochaine vidéo ou des premiers retours sur tes tweets. Est-ce que tu utilises par exemple toi Twitter pour faire germer une idée et te dire putain, tiens, là, ça marche, ça marche pas, ça j'en parle ou pas?
Alors, il y a deux choses différentes. La première chose, bon, moi, c'est difficile de parler de moi dans ce contexte parce que c'est pas du produit, etc. C'est purement du contenu, donc c'est des mondes quand même très différents. J'écoute pas du tout les commentaires à ce niveau-là. Je juge le succès d'une vidéo à ses stats.
Ok.
À son watch time, au nombre de gens qui ont cliqué sur la miniature et sur le titre. En termes de performance, je regarde pas les commentaires. Ça, c'est plus un kiff perso et pour voir un petit peu les débats. Et la deuxième chose, c'est que j'utilise vachement Twitter pour faire germer des idées et pour sonder la population. S'il y a un truc où je ne sais pas trop comment les gens pensent à ce sujet-là, je ne connais pas trop leur niveau de connaissance, etc. Je ne sais pas trop comment alimenter les débats. Je lance un tweet un peu pavé dans la mare et j'attends les réactions. Et là, je vais pouvoir discuter avec des gens avec qui je n'aurais jamais discuté dans la vie et je me mets à avoir des réflexions auxquelles je n'aurais jamais pensé.
Ok. Manuel, quand tu lances un produit... soit dans ton industrie, soit même, et je pense aussi au fait que tu lances une nouveauté au sein de tes équipes. Comment est-ce que tu recueilles les premiers retours? Est-ce que ça te permet de les améliorer? Si oui, comment? Est-ce que tu écoutes ces retours-là ou pas? Parce que toi, de toute façon, tu es dans ton idée et tu dis que c'est trop tôt.
Alors, tu parlais de faire ça en entreprise. Bon, moi, je suis sûrement un très mauvais manager, du coup, mais j'ai jamais écouté l'avis de mes équipes.
Tu leur as demandé quand même?
Je discute avec eux, je vais les voir bosser, etc. Mais je considère que une fois que je vois comment ils bossent, que je me rends compte de leurs problèmes, de qu'est-ce qui marche difficilement, etc., etc., c'est mon boulot de trouver l'idée qui va résoudre le problème. D'ailleurs, si tu es dans une boîte hyper contributive, en fait, tu es dans une boîte qui innove très très peu parce que par nature, les gens détestent le changement encore plus dans un contexte de travail. Parce que ne serait-ce que changer la position de la photocopieuse, déjà, je peux te dire que ça peut animer les foules. Donc, je considère qu'il ne faut pas trop demander leur avis là-dessus. Et après, il faut laisser les faits parler.
Il y a une personne qui travaille dans la promotion immobilière qui m'a partagé une stat là à midi qui m'a dit qu'on conseillait en moyenne un seul changement par an.
À quoi ?
D'outils, de logiciels, de façon de faire.
Quelle horreur.
Voilà, c'est la moyenne en France. C'est un changement par an maximum.
Mais qui conseille ça ?
Un promoteur immobilier qui a une grosse boîte et qui a beaucoup d'employés. Et c'est un métier plutôt ancien. Hein. Tu sens que les collaborateurs, ils n'ont pas 25 ans. Mais du coup, les boîtes qui vendent ces services, etc., leur disent « Attention, si vous prenez notre service et que vous avez déjà changé d'un logiciel ou de quelque chose d'autre qui touche la plupart de vos employés il y a de ça 2 mois, ça risque de moins bien passer, mais c'est pas à cause de nous. Ouais. C'est à cause du fait qu'il y a trop de changements, trop vite. » Je trouve ça incroyable. Enfin, moi, ça me correspond pas du tout, hein, cette mentalité, mais...
En fait, je parlais des commentaires, et Emmanuel, c'est pour les équipes. Je crois que j'aime pas l'idée d'écouter la vie des gens. Parce que tu peux pas vouloir être innovant en écoutant la vie des gens. C'est impossible. Tu peux être innovant en écoutant la vie de ton associé, de toujours la même personne avec qui tu sais que tu partages une vision, etc. Mais en écoutant la vie des gens, bah, tu vas faire ce que les gens consomment déjà, en fait. Mmh. Tu seras novateur dans rien du tout.
C'est ce que disait Steve Jobs, non ? Il en avait parlé plusieurs fois du fait qu'il écoutait.
En tout cas, il a construit sa boîte là-dessus.
On est d'accord.
Donc c'est pas impossible qu'il ait dit un truc comme ça. Oui.
Tu veux dire que c'est pas plus belle la vie ?
Pas mal.
Check ça, mon bro.
Donc là, on passe le test and learn. Ensuite, on affine l'idée. Donc comment est-ce que vous affinez l'idée si vous écoutez pas forcément le retour client ?
Alors c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Nous, on a dit qu'on n'écoutait pas trop l'avis des collaborateurs. Après, les data, elles parlent. Hein. C'est-à-dire, si tu essaies de vendre un truc, est-ce qu'il se vend ?
Les data, c'est différent. C'est un retour froid, factuel.
Si tu essaies de faire un produit qui doit être vu par des gens, est-ce qu'ils le regardent ? Et comment ils le regardent ? Parce qu'il n'y a pas que les données quantitatives. Il y a aussi les données qualitatives. Si le watch time est pourri, par exemple, dans votre univers à vous, bon, tu es très content d'avoir comptabiliser 1 million de vues, mais s'ils ont regardé 5% de ta vidéo, c'est pas glorieux.
D'ailleurs, en général, s'ils regardent 5%, tu feras pas 1 million de vues.
Ouais, j'imagine que ça compte au bout d'un moment. Ça dépend de la durée de la vidéo. Mais bon. Donc, c'est pas très glorieux. Donc, les data, moi, je suis tout à fait d'accord avec les data. Voilà, mais je considère souvent que l'avis des gens qui t'entourent, de tes équipes, etc., il y a déjà un biais cognitif.
L'avis des gens peut être illustré avec un exemple très simple, c'est la télé-réalité. 100% des gens qui regardent la télé-réalité te disent « Ah, mais je regarde parce qu'ils sont trop cons. » Est-ce que c'est un échec pour les producteurs de cette télé-réalité ?
Ok.
Non, c'est 100% un succès. Parce qu'on s'en fout de la raison pour laquelle les gens regardent. Ce qui compte, c'est que les gens regardent.
C'est putain de triste. Mais c'est vrai.
Oui, c'est très très vrai.
Est-ce qu'il faut améliorer du coup son idée, si elle fonctionne ? Ou est-ce qu'il faut parfois accepter le fait qu'une bonne idée qui fonctionne peut fonctionner pendant des dizaines d'années et la toucher, ça serait peut-être la faire échouer ?
Je me suis jamais retrouvé dans cette position. Du coup, c'est difficile pour moi de le dire, mais j'imagine que c'est un calcul complexe. Quand un truc marche bien depuis longtemps, de savoir à quel moment le changer et s'il faut le changer, je pense que c'est très difficile.
Moi, ça me fait penser à Squeezie qui, dans le document Merci Internet, disait quand il fallait deviner, tu sais, l'imposteur, il a une série YouTube où il faut deviner l'imposteur et on lui a posé la question de est-ce qu'elle allait continuer longtemps, etc.
Quand il faut
dit, mais en fait, elle fonctionne. Elle fonctionne et elle plaît aux gens. Donc, c'est pas parce que moi j'en ai fait beaucoup qu'il faut que je me dise ah ben j'ai plus envie d'en faire. Ouais. Elle continue de faire découvrir des métiers, elle continue de fonctionner. Tant qu'elle fonctionne, bon, on la propose. Et je trouvais ça très froid mais très vrai quoi.
Et en même temps, si tu vas sur Twitter, moi j'ai vu plein de gens qui disaient ah il faut absolument arrêter cette série, c'est bon, il a poussé le truc trop loin. Est-ce que les gens qui disent ça, c'est ta communauté ? T'en sais rien ? Est-ce que c'est les gens qui regardent tes vidéos habituellement ? Tu sais pas, c'est peut-être juste des gens qui connaissent Squeezie, qui l'aiment pas vraiment de base, qui le voient forcé avec une émission qu'ils ne regardent pas et qui vont dire « Ah bah ça, c'est bon, c'est de la merde, faut arrêter. »
C'est même pire que ça, Léo, je pense. C'est-à-dire que les mêmes qui disent ça regardent.
Peut-être, oui, sans doute. C'est vrai.
Et ils en loupent pas un pour pouvoir avoir un... C'est juste qu'ils ont... C'est la vie le plus simple à formuler. C'est un avis qui, intellectuellement, requiert assez peu de jus de neurones.
Et c'est vrai que pour dire stop, il faut arrêter, il faut déjà avoir vu l'épisode.
Voilà. Donc, et il faut en avoir vu un certain nombre et pour pouvoir les comparer et te dire, ah bah, il repompe le truc, il le fait souvent, etc. Bah oui, c'est toujours, ça s'appelle un concept, c'est la définition d'un concept, c'est-à-dire que ça, la trame générale est toujours la même et tout repose sur la qualité des invités et du mec qui anime. Donc c'est le principe même d'un concept. Il y a toujours autant de tocards qui regardent la Starac et c'est toujours le même concept.
Donc toi, Manuel, t'es ok pour laisser une idée incroyable. Elle est incroyable. T'es ok pour laisser une idée qui fonctionne
Bah tant qu'elle marche, elle marche en fait.
Ok.
Voilà. Après, si tu t'ennuies intellectuellement, bah développe d'autres idées à côté. Fais des side business, lance une autre boîte ou une autre branche d'activité. Amuse-toi. Voilà.
Faut juste le voir assez tôt quand ça commence à décliner.
Ouais. Pas se raccrocher.
Après, si t'aimes vraiment le truc et que ça te coûte pas grand-chose de le continuer, tu peux le continuer. Mais si ça commence à... La tendance est plutôt à la baisse, il faut le voir tôt.
Et comment est-ce qu'à la fin, on présente et on pitch son idée ? Alors, on a fait le prototype, le premier produit est sorti, puis on se dit, bon, bah tiens, là, il me faudrait quand même d'autres collaborateurs. Faut déjà que je pitch ce qu'on fait à des gens qui ont postulé pour venir dans ma boîte, mais qui savent peut-être pas encore exactement pourquoi, etc. Parce que c'est un poste classique de base. Comment est-ce qu'on pitch une idée ? Les bénéfices, les solutions, les problèmes, à quoi ça répond ?
Moi, j'en ai entendu des pitchs. Hein. Il y a un truc qui est rédhibitoire. C'est les mecs qui me décrivent ce qu'ils font. Ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est-à-dire que quand tu pitches ton idée, donc tu vas aller voir des gens pour les pitcher. En règle générale, t'as pas frappé une porte que tu connais pas. T'as rendez-vous, quoi. Tu prends pas un gars dans la rue pour lui pitcher ton idée au hasard, en fait.
Si on sait que tu fais ça, Manuel.
T'as un rendez-vous, t'as obtenu ce rendez-vous, t'as forcément envoyé un deck ou un truc comme ça, et le mec en face de toi, s'il est un minimum professionnel, il a regardé ton idée. Ce que j'attends du pitch, c'est pas que tu me dises ce que tu fais, je le sais, je l'ai vu. C'est pourquoi tu le fais. C'est ça qui m'intéresse de ton pitch. Et ça, malheureusement, c'est un faible pourcentage des pitchs.
Dans ce que t'as dit, il y a un truc que j'aime bien.
Seulement un ?
C'est... Non, bah, tout.
Ah,
100%. Mais il y a un truc précisément que j'ai... Si je dois retenir une branche de ta mind map, c'est celle-ci. C'est le fait qu'il faut que t'aies en face de toi quelqu'un de professionnel. Je pense que quand une idée est bonne et que tu la pitches à la bonne personne, ton pitch, il a absolument pas besoin d'être parfait, d'être hyper travaillé. Si l'idée est bonne et que la personne qui est en face de toi est professionnelle et la bonne personne, donc saura recueillir ton idée, saura la comprendre, je pense que le pitch, c'est pas tellement ce qu'il y a de plus important.
Et puis, je veux dire, il y a un truc très vrai dans ce que tu dis, Léo, c'est qu'il faut que les deux parties aient bien travaillé. Donc, tout le monde doit être pro, en fait. Toi, il faut que tu prépares à ton pitch, c'est du côté idée. Et puis, le mec qui doit évaluer le pitch doit avoir fait son boulot, regarder le secteur, évaluer cette idée parmi d'autres. Il s'appuie aussi sur son expérience, parce que si tu es du côté fond d'investissement, par exemple, bah, des idées, t'en vois passer tous les jours. C'est même ton lot quotidien. Donc, tu commences quand même à avoir une bonne idée du marché que t'adresses, etc., etc. Donc, il y a ton expérience, puis il y a ta connaissance, la quantité de travail que t'injectes dans ton... Mais ça serait comme un mec qui dit, si j'arrive hyper bien préparé à mon date, je suis sûr de pécho. Non. À un moment, il y a une histoire de fit.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut que le mec en face de toi, non seulement il croit à ton idée, machin, etc., mais il fit avec toi. Parce qu'une entreprise, c'est une idée, un modèle, des data, mais c'est aussi les humains qui l'apportent. Et si, dans ce petit moment de pitch, tu me racontes pas pourquoi tu fais tout ça, et à quel point c'est relié à toi, et à quel point c'est viscéral, et tu as envie de le porter contre vents et marées, bah, j'ai aucune envie de dater avec toi.
C'est dans Qui veut être mon associé qu'il y a plein de pitchs en ce moment qui nous permettent d'avoir des exemples sur justement des projets où tu te dis, bah en fait, en fonction de la façon dont c'est présenté, ça peut soit être perçu comme de la merde, soit ça peut être trop bien. La dernière fois, c'était une entreprise qui présentait des compléments alimentaires et la façon dont ils l'ont présenté, genre tous les potentiels investisseurs ont parlé d'un placebo. Et alors que c'était prouvé, hein, tu vois, après, il y a eu des études qui ont été faites, etc. Sauf que la façon dont ça a été présenté, c'était tellement mal présenté que ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que c'est un point super important. Et parfois, parce qu'on a eu une idée, qu'on a déjà réussi à la transformer en projet et qu'on en a déjà vendu, en plus, on peut se dire, bah, forcément, tout le monde va comprendre, je vais présenter le truc et ça va être facile.
Mais je vais dire un truc qui va certainement être jugé comme étant cruel, mais je trouve que c'est normal que de très bonnes idées se plantent comme des merdes parce qu'elles sont portées par les mauvaises personnes.
Ah oui.
Je trouve que c'est mérité. C'est le fond et la forme.
Et c'est un bon indicateur du fait que tu n'es effectivement pas la bonne personne pour la porter.
Exactement. Et dans l'exemple que tu donnes, bah, s'ils sont pas foutus de pitcher leurs produits dans leur industrie, s'ils ont des résultats scientifiques à l'appui de leurs produits et que ça ne se ressent même pas dans leur présentation, bah, sincèrement, ces gens, ils méritent pas d'y arriver.
Il y avait un livre que
c'est
tu...
peut-être cruel, mais c'est comme ça. Non, c'est
la
normal.
La vie est cruelle, Manuel.
Ah oui.
Surtout le business.
C'est vrai, je passe mon temps à le dire.
C'était un livre de John Steele que tu m'avais conseillé de lire, Perfect Pitch. On vous le laissera le lien dans la description, mais c'est toi qui m'avais dit que ça avait été vachement inspiré, ou en tout cas que c'était dans la forme de la façon dont peuvent s'y prendre Apple dans la présentation,
non,
ce qui était expliqué dans le livre.
Non,
je confonds.
Start with Why et Perfect Pitch.
Ah, pardon, ok, exact. Oui,
c'est deux livres différents.
Mais oui, pourquoi on s'emmerde en fait? Si vous voulez faire un bon pitch, vous regardez toutes les keynotes présentées par Steve Jobs et vous inspirez de ça.
C'est une grande leçon de pitch. Et voilà. Vous lisez Start With Why quand même, comme ça vous permettra de comprendre ce que vous avez intuité naturellement. Et puis voilà, tout le kit est prêt et allez pitcher. Il y a un livre à lire, c'est pas compliqué quand même.
C'est vrai.
Et en plus maintenant il est traduit en gaulois. Donc franchement, il n'y a aucune excuse.
Vous pouvez aussi lire 50 nuances degrés, mais ça c'est pour un plaisir perso.
Oui, certainement. Tu l'as lu toi?
Le 2 seulement.
Ah oui. Pourquoi? Je savais même pas qu'il y avait un 2.
Moi non plus.
Voilà, on vous souhaite bon courage avec vos idées de merde. Et puis, à très bientôt.
Attends, on donne pas de conseils pour la fin?
Tu veux un petit conseil? D'accord, je rebaisse, il n'y a pas de problème. Alors, on fait un conseil, c'était... Ok.
On fait un conseil. On vote pour qui?
On fait un conseil.
Bon, comme dans Koh-Lanta.
Moi, je propose qu'on élimine Romain. On est d'accord?
À l'unanimité.
Ok, très bien.
Parce que Romain vote contre lui aussi.
Qu'est-ce que tu conseilles, Léo?
Ah putain, je suis pris au dépourvu. Attends, faites des mind maps.
D'accord. Qu'est-ce que tu conseilles, Manuel?
Passe ton idée au crible, essaye assez vite, regarde les datas. Si c'est pas ça, une idée, c'est pas dur, ça coûte pas très cher. Trouve-en une autre.
Qu'est-ce que tu conseilles, Romain?
Te fais pas chier, fais ton idée et puis tu verras bien si t'auras toujours envie de la faire le lendemain. Et à ce moment-là, tu jugeras que le résultat, voilà. Mais fais, ça sera toujours mieux que de penser.
Qui a eu l'idée? Alors pense avant de faire quand même. Hein.
Oui.
Ouais, mais tu peux faire presque les deux en même temps. Parfois, tu lances ton truc différents. Et puis
toute la nuance. Parce que moi, je passe mon temps à dire que d'y penser pendant longtemps. Mais là, il y a une perte en ligne. En fait.
Qui a eu l'idée de donner des conseils pour la fin du podcast là?
Bah, c'est Romain.
Ah.
Merci les gars.
Je crois que c'était moi. Merci Manuel. Check ça.
Allez,
check la ça. Bise.
Ciao.
Bye bye.
Salut.